Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Clément Muller, Pierre Forest et François-Louis-Marie. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, de la MotoGP avec le Grand Prix de France, du football avec les demi-finales de la Ligue des Champions et l'avant-dernière journée de Ligue 1, et du rugby avec la 23e journée de Top 14. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Clément Muller, on va commencer par vous avec la MotoGP et une victoire qui nous fait plaisir mais totalement inattendue de Johann Zarco sur le Grand Prix de France.
Oui, effectivement, on attendait un Français ce week-end sur le Grand Prix de France, mais peut-être pas Johann. Et bonne surprise, on a quand même un Français qui signe une très très belle victoire après un week-end un peu tumultueux, on va dire.
Voilà, il était parti donc à la 11e place sur la grille et finalement il s'impose avec 20 secondes d'avance quand même sur Marc Marquez, donc il a bien joué sur tout ce qui était anticipation des pneus et puis il a profité des pénalités de certains pilotes.
Alors, effectivement, il y a eu un petit facteur chance sur le début parce qu'il se retrouve seul en course avec des pneus pluie alors que les autres pilotes étaient un coup en slick, un coup en long lap, un coup en changement de moto. Enfin, il se retrouve seul un moment en course. Donc oui, il y a un petit facteur chance à ce moment-là. Mais après, donc il se retrouve avec 7 secondes d'avance. Il finit la course avec plus de 20 secondes d'avance. Donc là, on passe sur un autre step et il tournait une demi-seconde à une seconde plus vite autour que Marc Marquez. Donc y a le facteur chance s'annule complètement et on a le talent de Johann qui a refait surface.
Alors, on va reparler tout de suite de ce facteur chance, puisque après le premier virage, tout aurait pu s'arrêter. Hein. Il se retrouve dans le bac à gravier et il ressort du bac à gravier, il est 17e.
Oui, effectivement, il n'entame pas très bien le week-end parce qu'il part assez loin. Il loupe son départ complet. On voit les images embarquées où il se fait doubler par tout le monde au départ. En plus de ça, il se fait tamponner, il termine dans le bac à gravier, il traverse, donc il restait derrière lui que deux ou trois pilotes. Donc c'était compliqué et les conditions météo changeantes, un coup de pluie, un coup de pas de pluie, lui ont donné cet avantage à ce moment-là. Et comme on sait que Johann est un fin technicien et un très bon pilote sous la pluie, il a juste déroulé sa technique et sa compétence au guidon de sa Honda.
Premier Français à s'imposer sur le Grand Prix de France depuis 1954, 71 ans.
Ouais, c'est ça, c'était assez impressionnant d'avoir les statistiques. C'est vrai qu'on a eu pas mal de victoires françaises en 125, même en Moto 3 avec Louis Rossi il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'en Moto GP, en catégorie Rennes, ça faisait 71 ans qu'on n'avait pas eu de Français vainqueurs au Mans. Donc ouais, c'est une très belle victoire et d'autant plus pour Johann qui est quand même le doyen du plateau.
34 ans.
34, 35 au mois de juillet. Donc, c'est une très belle victoire, très méritée. Donc, on est satisfait, on est très content pour lui.
Alors, je crois qu'il était un peu content aussi. On a vu sa joie et sa célébration incroyable. La communion avec le public, c'était vraiment quelque chose de formidable. On l'a même vu faire un salto arrière depuis la rambarde.
On se demandait s'il n'était pas rouillé du salto arrière, mais apparemment, non, c'est. Effectivement, il la mérite amplement. Il tient du bout des doigts le projet Honda qui est en grande difficulté depuis des années. L'année dernière, il ne faut pas oublier que Johann il termine 17e du championnat avec très très peu de points marqués, quasiment jamais dans les points. Là, la moto a progressé et puis une victoire, ça fait du bien. Ça fait du bien.
Bon, deuxième victoire en carrière seulement, j'ai envie de dire. Quand on connaît le talent de ce pilote, c'est dommage, c'est trop peu. Mais le fait d'en avoir une à la maison, je pense que ça vaut peut-être toutes les autres qu'il a laissé passer.
Exactement, je pense que ça vaut toutes les victoires qu'il n'a pas eues. Et je pense que peu importe quand il arrêtera, est-ce qu'il aura un guidon l'année prochaine ou pas, je pense que là, ce qu'il vient de faire, ça restera gravé à jamais. Et pour lui, je pense que ce sera la plus belle.
Bon, on va continuer avec le facteur chance ou superstition. Peut-être qu'il va inviter ses parents sur les prochains Grands Prix, parce que c'était la première fois qu'il assistait à un Grand Prix.
Effectivement. En 17 ans de carrière, première fois qu'il a ses parents et il le remporte. C'était bon, beau.
Quelque chose me dit qu'ils seront là dans 15 jours à Silverstone. On va parler des autres pilotes un petit peu, notamment de l'autre pilote français, Fabio Quartararo. Qui avait signé la pole pour la deuxième fois consécutive.
Effectivement, on attendait quand même plus Fabio aux avant-postes que Johann en tant que Français au Mans. On avait vu les progressions de la Yamaha déjà depuis un petit moment grâce aux concessions et aux essais avec les pilotes d'essai. On a vu une moto qui progresse d'abord sur un tour chrono, puis une moto qui arrive à tenir quand même une sprint race avec des résultats pas trop loin. Donc on commence à être confiant des résultats de la Yamaha avec en plus avec un pilote talentueux comme Fabio. Et ben, il a manqué un peu de réussite, on va dire. Quatrième samedi sur la sprint, ça passe pas très loin, mais il manquait 5-6 tours pour dérouler son savoir-faire. Et après, bon, ben, on a tous vu ce qui s'est passé dimanche sur la course. Hein. C'est dommage, mais bon, c'est aussi le jeu de la MotoGP. Le principal, c'est qu'il ne soit pas blessé et puis que. Il a fait une pole, donc faut pas l'oublier. Il sera là encore et faut pas oublier nos Français. Ils sont quand même bien présents.
Voilà. Donc on a vu cette chute. Il était d'ailleurs tout de suite juste derrière lui. Brad Binder fait exactement la même chute, exactement au même endroit. On les voit glisser tous les deux et partir à la faute. Voilà. C'est forcément les conditions devenaient compliquées. C'était un des moments stratégiques parce qu'il y en a eu plusieurs où il fallait peut-être rentrer un tour avant et anticiper la pluie, mais difficile toujours à dire, facile à dire après.
C'est difficile de jauger quand on est sur la moto et de se dire est-ce que je rentre, qui rentre, qui rentre pas. On ne sait pas non plus ce que vont faire les pilotes qui sont derrière, donc on est dans une espèce de stratégie un peu pirate où
on retrouve le principe de l'undercut qu'on a en Formule 1.
C'est ça, c'est un peu ça. Et bon, ben, c'est vrai que c'est ce Grand Prix, en tout cas la course de dimanche, a été un peu au début on se dit waouh, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi ce truc, ça rentre, ça sort, on change de moto, et en fait après bon il s'est mis à pleuvoir, donc c'était pareil pour tout le monde et puis la course s'est déroulée même condition pour tout le monde, mais c'est vrai que le début de course a été compliqué, il a fallu vachement réfléchir et ça aide pas à faire forcément de bons résultats.
Bon, il y en a un qui malgré tout tous les week-ends est quand même assez régulier, c'est Marc Marquez, hein. Il a encore pris la course sprint de samedi, il fait deuxième sur la race, il est là tous les week-ends même quand il gagne pas.
Là il a déroulé, il a montré qu'il était présent. Il fait le meilleur week-end hein, en termes de points. De loin, c'est celui qui, de loin, marque le plus de points. Son frère, ça aurait pu être pas mal, mais malheureusement, ça chute. Pecco marque pas de points. Enfin, c'est compliqué.
C'est exactement là où je voulais vous emmener. Pecco Bagnaia, très très discret tout le week-end.
Ouais, Pecco, gros résultat blanc, donc on connaît Pecco, ça peut être dur, les prochains Grands Prix, moralement, il va falloir qu'il arrive à vite rebondir, parce que là, il perd de précieux points, et puis derrière, ça allait dans l'ongle, on voit les jeunes pilotes qui commencent à comprendre comment ça marche, on a Fermin Heidegger, le jeune rookie,
qui fait troisième sur ce Grand Prix,
qui fait son premier podium à 20 ans, et il ne faut pas oublier qu'il a une Ducati entre les jambes, donc s'il comprend le mode d'emploi, il peut venir... Donc il y a du monde derrière, donc c'est pas le moment de s'endormir.
Bon, on se retrouve au championnat avec un Marc Marquez qui a du coup pris un peu d'avance sur son frère Alex avec 171 points contre 149. Derrière Bagnaia, donc qui est à 120 points. Et puis après, ça commence à être un peu plus loin en points avec Morbidelli et Gian Antonio. Et Zarco, 6e, et Fabio Quartararo, 7e. Donc finalement, ils sont quand même là.
Ils sont là. Après, effectivement, on est quand même déjà à plus d'un week-end d'avance pour Marc Marquez sur Bagnaia, par exemple. On a plus de 37 points, donc ça commence à causer en termes d'écart. Donc il va falloir que les autres pilotes fassent attention.
Se réveillent, prochain Grand Prix dans 15 jours à Silverstone, en Grande-Bretagne. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
Yes.
On va passer au rugby avec vous, Pierre Forest. C'était la 23e journée de Top 14 et le suspense reste entier, j'ai envie de dire, à part Toulouse, dont on sait qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales déjà. La deuxième place, qui est synonyme elle aussi de demi-finale, n'est pas encore assurée. Toulon a perdu, l'UBB a perdu, donc ça laisse le suspense entier.
C'est un championnat palpitant, on l'a dit depuis quelques semaines maintenant, et on se rend compte, hein, comme vous avez dit, à quelques... trois journées de la fin, seul Toulouse s'est qualifié pour une place en demi-finale directement. Après, on voulait voir comment les Stades toulousains allaient réagir après sa demi-finale perdue contre l'UBB en Coupe d'Europe. Et ils ont tellement bien réagi qu'ils ont atomisé, hein, pas d'autre mot, le RC Toulon qui est toujours le troisième.
À Mayol.
Pas à Mayol, mais au Stade Vélodrome. Ouais. Hein, donc pour un match décentralisé. devant 66 000, 67 000 spectateurs, qui est le record du stade Vélodrome, qui est réputé normalement pour recueillir des matchs
de football. Pour du rugby, hein, parce que je vois François-Louis Marie qui rigole à côté de vous, il n'est pas d'accord.
Mais pour le rugby, c'est impressionnant. Toulon qui a tenu une mi-temps contre le Stade Toulousain, je crois qu'ils étaient à 2 points à la mi-temps, c'est derrière. Ça. Malheureusement, à 2 minutes de la mi-temps, ils ont perdu leur capitaine et surtout stratège, le demi de mêlée, Serein, qui a eu deux avertissements, deux cartons jaunes, et qui a laissé, et puis là, ils ont déroulé 50 points. Bordeaux, ce matin, a perdu à Montpellier.
Largement, hein, 46-27.
Et si on devait comparer un petit peu les effectifs de Bordeaux, l'UBB, qui est quand même qualifié pour la finale, et Toulouse, en dehors du 15 type de Bordeaux, qui présente quand même un visage très...
Très international.
Très international et qui ont des grandes chances de gagner cette Coupe d'Europe. Je pense que les doublures ne sont pas au rendez-vous. Et on l'a vu ce matin, ils ont pris 50 points à Montpellier, qui découvre Montpellier, se repositionne pour être dans les qualifiés, hein, dans les 6 premiers qualifiés. Donc en dehors de Toulouse, qui a maintenant sa place en demi-finale directe, on attend de voir comment Bordeaux et comment Toulon vont réagir après ces deux déculottés du week-end, pour être le deuxième qualifié d'office pour les demi-finales. Et puis la bataille est rude entre la quatrième et la... Pour la quatrième...
Jusqu'à la septième place.
Voilà. Jusqu'à la sixième, parce qu'ils sont vraiment très près les uns des autres.
Exactement.
En dehors de Bayonne, qui est quatrième et qui a un peu de marge.
Un petit matelas de 7 points sur Castres.
Voilà.
Castres a un match en moins, on y reviendra après.
Tous les autres sont serrés. Ça va même jusqu'à Clermont, qui est à 48, qui n'a pas joué. Hein, du coup,
Clermont et Pau, qui ont 48, et Clermont, voilà, effectivement, donc, n'a pas joué.
Un match de moins. Et puis les places aussi pour la descente et puis pour le maintien, ce n'est pas joué. Hein, ça va se jouer entre 3 équipes, mais ça va tellement vite, surtout sur le bonus offensif. C'est 5 points. Une victoire, c'est 4 points. Un bonus offensif, c'est 5 points. Un bonus défensif, c'est 1 point. Donc ça va se jouer entre l'USAP, qui a gagné ce week-end.
Le match qu'il ne fallait pas perdre.
Le match qu'il ne fallait pas perdre contre le Stade français. Et puis Vannes, qui a malheureusement perdu à la sirène, hein, sur un drop de La Rochelle. Il menait devant La Rochelle et malheureusement, l'international Lastoy a assommé Vannes à la sirène avec un drop des 40 mètres en face des poteaux. Et voilà, ce qui condamne, pour le moment, qui condamne Vannes à la dernière place. Ça va être très serré jusqu'au bout,
mais
pour
Vannes,
celui qui descend, voilà, ou pour celui qui va jouer les play-offs.
Vannes, depuis le début de saison, grappille des points. Un point par-ci, un point par-là, un point de match nul, un point de bonus défensif. Et finalement, est-ce que ce n'est pas eux les mieux placés pour se sauver dans le pack des trois,
les deux qui peuvent se sauver, c'est Vannes, comme tu viens de le dire, et puis surtout Perpignan. Alors que le Stade français, alors pourquoi ils peuvent se sauver? Parce qu'ils ont l'habitude. Vannes, depuis le début du championnat, se bat tous les week-ends, à domicile comme à l'extérieur, pour grappiller des points. Perpignan, tous les ans, ils montent, ils redescendent, donc ils se battent pour ne pas descendre, et ils se battent aussi quand ils sont en Pro D2 pour remonter. Donc ils sont habitués à ces joutes de fin de saison. Par contre, le Stade français n'est pas très habitué, puisque rappelez-vous, l'année dernière, ils ont perdu en demi-finale. Et puis là, l'effectif et surtout l'encadrement laissent un peu à désirer, je trouve, hein, en termes de coaching et en termes de management de l'équipe.
Bah, ils n'ont jamais réussi à se remettre à l'endroit à aucun moment dans cette saison, le Stade français.
Ils sont en difficulté.
Et donc, on va revenir un instant sur Castres aussi, qui n'a pas joué ce week-end. Hein,
Castres aussi n'a pas joué ce week-end à cause du décès du joueur fidjien,
Josaya Raisuke, décédé dans un accident de voiture la semaine dernière.
Qui a traversé le passage à niveau. Et puis, le prochain match, on va accorder aussi une attention particulière à Bordeaux. Bordeaux, ça fait... Et bon, en dehors de s'être qualifié pour la finale, ils ont perdu deux matchs déjà, certes à l'extérieur. Mais le prochain match, avant la finale, c'est justement contre Castres qui va jouer aussi le maintien dans les six. Donc... on verra s'il va aligner l'équipe qui joue la finale ou une équipe bis. Et surtout, après la finale, comment Bordeaux va réagir en fonction de qu'ils aient gagné ou perdu. Il y a quand même un effectif à gérer. Et on l'a vu ce week-end, l'effectif second qu'ils ont aligné a pris 50 points contre Montpellier ce matin.
Voilà, ils n'ont que 2 points d'avance sur Toulon.
Ouais.
Donc il reste 3 journées. Donc la deuxième place est loin d'être garantie pour les Béglés.
Très loin, très très loin.
Un dernier petit mot peut-être sur une équipe dont on n'a pas parlé aujourd'hui, enfin très peu en tout cas, La Rochelle, qui a aussi encore une chance de figurer dans les six finalement.
Oui, par le biais de sa victoire à Vannes. Ils sont juste derrière Montpellier sur le
Avec un goal à verrage très défavorable.
Oui, très défavorable. Ils sont juste derrière, mais le prochain match, je crois que c'est La Rochelle, Montpellier justement, à La Rochelle. Donc ça va valoir la cinquième voire sixième place en fonction du total de points, bonus ou pas bonus.
Bon, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'intérêt. Les matchs vont s'enchaîner là quasiment un par semaine entre le top 14 et la Coupe d'Europe jusqu'à la fin du mois de mai.
Il reste trois journées, ça va être encore trois journées vraiment disputées jusqu'au bout, jusqu'à la sirène comme on dit à chaque fois.
Avec du suspense à tous les étages. On va parler football maintenant avec vous, François-Louis Marie. On va commencer par ces demi-finales de la Ligue des Champions.
Il y a eu de belles choses.
Ah bah, il y a eu de très très belles choses. Alors on commence par quoi ? On commence par le PSG. Allez, allons-y, on va quand même se faire un petit cocorico. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on a un club français en finale de la Ligue des Champions, hein, donc on va en profiter un peu.
Qui a gagné en plus ?
Pour l'instant, personne n'a gagné, mais enfin, à part Marseille en 93, ce qui nous rajeunit pas. Donc, on va parler de cette victoire du PSG contre Arsenal de 2-1. Qu'est-ce que vous retenez de ce match-là ?
La première chose, c'est que le PSG, quatre grosses équipes du championnat de Première Ligue. Hein. Ça,
tout le monde dit que le PSG est champion d'Angleterre aujourd'hui.
Exactement. Donc, le PSG, donc, ça montre que c'est une équipe qui a progressé. Il faut rendre hommage à Luis Enrique parce que Olivier, l'année dernière, on ne parlait pas en bien du PSG. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelais. Ah
bah, très, très bien.
Luis Enrique, tous ses changements et qu'il opérait à droite, à gauche. En fin de compte, il a construit petit à petit son équipe. Il a construit avec ou sans neuf. Il a construit avec de jeunes joueurs. Ça, il faut mettre ça aussi en avant. Beaucoup de jeunes joueurs de 18, 19 ans, 20 ans. Comme quoi, effectivement, ce n'est pas que l'argent. Et avec Mbappé, on se disait, il va perdre Mbappé, c'est quand même 30-40 buts par an. Et en fin de compte, il a eu raison dans sa logique, hein,
il a été très clair sur ce discours des débuts, il a dit je préfère 4 joueurs à 15 buts qu'un seul à 40 buts.
Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que si un joueur qui marque 30 buts, si ce joueur-là est blessé ou n'est pas en forme, tu ne marques pas. Si tu as 4-5 joueurs qui marquent au moins un but par match, tu as des chances de gagner un match.
Voilà, pas de dépendance.
Donc c'est un autre PSG. Et ensuite, ils ont tous adhéré à son discours et à ce qu'il a mis en place. Avant, on parlait de bloc haut, bloc bas, bloc médian. Lui, il s'adapte à l'équipe d'en face. Il s'adapte. S'il faut aller faire un contre-pressing haut, il fait un contre-pressing haut. Et on l'a vu sur les deux matchs qu'il a joué, qu'ils sont capables aussi de défendre et de bien défendre parce qu'ils auraient pu prendre un but. Et en fait, ce que je retiens, c'est qu'il a aussi un bon gardien hein, qui a été décrié pendant 2 ans. Et les deux équipes qui seront en finale ont quand même 2 bons gardiens. Si on n'a pas 2 bons gardiens à l'heure actuelle, on ne va pas loin.
C'est ça. Donc Donnarumma a sorti 2 fois le match qu'il fallait, sans être homme du match les 2 fois, alors que franchement, il aurait dû. On pense qu'on peut le dire. S'envoler.
Contre City, il a pareil.
La vedette à Hakimi sur ce dernier match, non. Mais... Je pense que Donnarumma, vu les arrêts qui sort en début
surtout,
de match...
Surtout les 15 premières minutes, voilà. Il nous sort 2 arrêts de grande classe. Quoi.
On a aussi une superbe volée de Fabian Ruiz.
Là,
techniquement, elle est quand même pas mal.
Eh bien, ça fait aussi... C'est un joueur qui était décrié l'année dernière. Hein. On ne le voyait pas. Ouais. Pourquoi elle fait jouer ? Pourquoi elle ne fait pas jouer ?
C'est surtout qu'il y avait un delta important entre ce qu'il produisait avec l'équipe d'Espagne et ce qu'il produisait avec
le PSG.
Tout à
fait. En équipe d'Espagne, il est titulaire. Là, il a une place pratiquement assurée à chaque fois. Et au PSG, il est passé à côté de ses matchs. Mais là, il apporte un certain équilibre à l'équipe du PSG, notamment avec son pied gauche, mais aussi un équilibre technique. Et avec les deux autres, le petit Núñez et Vitinha, ça fait un équilibre technique. Et des garçons qui sont capables de compenser à droite et à gauche. Et on le retrouve beaucoup plus à la finition maintenant.
C'est ça,
donc
plus
ils ont
aux avant-postes.
Milieu de terrain. Très gros milieu de terrain. Donc c'est un atout pour le PSG. Et la force du PSG, c'est de pouvoir s'adapter. Hein. Là, ils ont maintenant des attaquants. Quand tu regardes sur le côté gauche Cava, la façon dont il défend, mais c'est extraordinaire. Jamais Mbappé ne faisait ça. Même Dembélé ne faisait pas. Et maintenant, Dembélé, on voit qu'il va au pressing. Tout le temps au pressing. Alors j'aurais bien voulu savoir un peu sa VMA, hein, parce qu'il court tellement, mais j'aurais bien aimé savoir un peu au niveau de sa VMA et son volume d'oxygène parce qu'il est tout le temps au pressing. Il est tout le temps au pressing et il arrive à marquer des buts. Donc, comme quoi.
Et à rester précis au moment de la finition, exactement.
Très, très, très précis. Je ne sais pas si ça sera pareil l'année prochaine, mais pour cette année, il est en pleine confiance. Il est précis, il a le sens du but et en plus, physiquement, il tient le choc.
C'est ça. Et il est dans une autre optique que ce qu'il était, puisqu'il a même redemandé à venir s'entraîner alors que Luis Enrique lui avait donné 5 jours de repos. Il a dit j'en prends 2 et je reviens. Donc,
Parce qu'il sent que le travail paie. Et s'il s'arrête peut-être 5 jours, peut-être qu'il va perdre un peu cet influx qu'il a en ce moment, cette justesse. Et il montre aussi qu'il est motivé. Quoi. Maintenant, c'est devenu un chef de file du PSG. Hein.
Bon, et donc le PSG est en finale face à l'Inter. On a eu une deuxième demi-finale totalement incroyable, à l'instar de ce qu'on avait eu au match aller. On avait déjà eu un match aller totalement fou entre le Barça et l'Inter. On a eu un match retour tout aussi fou, avec un scénario incroyable.
Écoute, parfois tu t'endors devant certains matchs, mais là, je me suis assis, j'ai dit non, c'est pas possible. On a tout eu dans ce match. C'était une espèce de film psychodramatique. Où on a tout eu, des faits de jeu avec un pénalty ou pas pénalty, on a eu des arrêts de gardien, des buts à la fin du match et dans le temps additionnel. Donc on se dit, non, mais c'est très rare. Hein. Si je me rappelle bien, c'est peut-être une finale de Coupe d'Europe avec Liverpool.
Contre le Milan,
oui, exactement.
Où Liverpool est mené 3-0 à la mi-temps par le Milan.
Exactement, et ils reviennent. Tu sais, mais sinon, c'est un match d'anthologie. Hein. Ça aurait pu être le match de la finale. Parce que j'ai encore vu Barcelone très très tôt ce matin contre le Real. L'Inter, ils ont sorti le match. Hein. Ils ont sorti le match qu'il fallait. Et l'Inter, c'est une équipe très athlétique. Très, très athlétique.
Très solide aussi.
Et très, très solide. Moi, il me tarde de voir les deux oppositions avec deux styles différents. Hein, parce que tu as sur les couloirs avec l'Inter deux bons hommes de couloir entre Di Marco et
Dumfries,
qui auront en face Mendes et Hakimi. Ça peut donner lieu à quelque chose de terrible sur les côtés.
C'est ça. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, le Barça a cru être qualifié quand même, vous l'avez dit. Mais à Serbie, le vieux à Serbie, si José, il n'a que 37 ans, mais dans l'effectif, c'est un des plus vieux. Il n'avait jamais marqué en Coupe d'Europe, il n'avait jamais marqué en Ligue des Champions, et il a choisi le bon moment pour débloquer le compteur.
C'est le football, avec un bon dernier passeur, Dumfries, il donne deux dernières passes, c'est extraordinaire. Hein, mais c'est la paire d'attaque qui m'inquiète aussi, parce qu'entre Lothar Martinez et Thuram, ça me fait penser à la paire Suarez-Messi au Barça à l'époque, où Suarez faisait tout le travail et Messi venait marquer. Là, tu as Thuram qui fait tout le travail à chaque fois, qui pèse énormément pour Lautaro Martinez qui lui finit.
Bon, on va suivre donc cette finale le 1er juin au matin ici avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. On invite Pierre à se joindre aux supporters du PSG pour fêter ça dignement.
Je serai là.
Bon, on compte sur vous, Pierre. On va tout de suite passer à une page de pub et on reprendra la page football après cette page de pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Recensement de la population 2025. Du 22 avril au 22 mai, j'accueille l'agent recenseur. C'est rapide et confidentiel. Mes réponses sont utiles. Elles contribuent à dessiner le portrait de la Nouvelle-Calédonie. Plus d'infos sur Facebook, ISNC ou au numéro vert 05 20 00. Aujourd'hui, je compte pour demain.
RRB, il est 16h30. Tout de suite, on retrouve la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
De retour dans cette émission sportmédable et on va continuer avec le football, donc, mais cette fois-ci avec la Ligue 1. C'était l'avant-dernière journée ce week-end. Et on peut dire que les Européens, ceux qui briguent l'Europe, sont passés à côté. Hein. On va commencer par eux. Strasbourg, Nice, Lyon, Lille. Les quatre ont perdu. C'est incroyable ce scénario, c'est rare de voir que tous flanchent en même temps là dans le sprint final.
Dans le sprint final, quatre équipes qui flanchent à ce moment-là, c'est quand même très rare. Hein. D'ailleurs, Genesio est remis en question, ils sont tous remis en question, ils ont remis tous les entraîneurs en question, et c'est un peu dommage. Mais flancher à ce moment-là, est-ce qu'on a l'effectif suffisant pour aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on a l'effectif suffisant sur le plan mental, parce que là, il craque complètement cette fin de championnat. Maintenant, il y a deux clubs quand même qui s'en sortent. Il y a le club très cher à Pierre, sur Forest, qui lui s'en sort, qui était mal parti, mais qui s'en sort quand même. Et puis Monaco, qui n'a pas tremblé, hein, ça, il faut le souligner aussi. Hein.
Bah, Monaco a été très solide contre Lyon, hein, 2-0. Ils n'ont pas laissé l'occasion à Lyon d'espérer à aucun moment dans ce match.
C'est surtout Lyon, je crois, la grosse déception, puisque...
Bah, ils étaient sur une très bonne dynamique,
sur une très bonne dynamique, avec, en mélangeant la Coupe d'Europe et le championnat, où ils étaient très, très bons, malgré la suspension de leur entraîneur. Hein,
ils étaient sur une bonne dynamique avant trois défaites assez cruelles, quand même. Hein, la défaite contre Manchester, la défaite contre Saint-Etienne dans le derby.
Surtout contre Manchester, je crois que ça les a coupés un peu dans leur...
Parce qu'ils vont conserver l'entraîneur, parce qu'en fait, le contrat, c'était de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc, comme Lyon, là, pour l'instant, on n'est pas sûr de se qualifier pour une coupe d'Europe. Est-ce qu'ils vont le
sachant conserver. Qu'ils sont en plus sous la menace d'une suspension de l'UEFA, donc c'est loin d'être gagné pour les Lyonnais. Pour les Marseillais, en revanche, c'est validé. Ils joueront la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sûr. Voilà, une dernière journée un peu presque pour rien pour les Marseillais. Ils sont presque déjà en vacances, mais ils ont fait le job. Ils sont allés chercher la victoire au Havre.
Non, mais pour Monaco et l'OM, il ne s'agit pas de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Hein. Ce qu'ils vont tenir la saison prochaine, on l'a déjà vu, hein, il y a 5-6 ans de ça, l'OM était en Coupe d'Europe. Et puis l'année d'après, ils n'ont pas pu assurer parce qu'il n'y avait pas l'effectif pour. Donc il fallait assurer le championnat, il fallait assurer la Coupe d'Europe,
sachant que la Coupe d'Europe est donc désormais c'est 8 matchs de poule,
la nouvelle formule,
c'est encore plus exigeant physiquement et donc ça demande un banc conséquent.
Très riche. Est-ce que Marseille a les moyens financiers d'acheter des joueurs? Est-ce que Monaco a ces moyens-là aussi? On verra, mais ça peut relancer un peu le championnat. Paris est au-dessus. Si les équipes doivent se renforcer, ce qui est une bonne chose, hein. Mais c'est pas une question uniquement de sous. Hein. Il y a Paris effectivement, le Qatar, mais quand on voit l'écart de points qui existe entre Paris et Marseille et Monaco, c'est énorme.
Quasiment 20 points avec Marseille.
Ça veut dire qu'ils ont perdu d'autres points en route. Hein. Il y a deux championnats comme celui-là, c'est celui d'Angleterre et celui de France. Hein. Où Liverpool est largement au-dessus et en France. Mais en Italie, c'est toujours serré. En Allemagne, ça va.
Ouais, en Allemagne, le Bayern a été sacré la semaine dernière. Voilà. En Italie, ça se joue encore. C'est pas décidé. Ça jouera sur la dernière journée. Naples n'a plus qu'un point d'avance sur l'Inter.
Voilà.
Et puis en Espagne, c'est pas encore joué non plus. Donc
à charge pour les clubs. Les autres clubs français, Marseille, Nice, Lille, de pouvoir avoir une politique qui puisse concurrencer avec Paris sans qu'il y ait cet écart de points.
C'est ça, puisqu'il n'y a que deux matchs contre le PSG dans la saison, donc ça fait que 6 points.
T'as fait 6 points. Et là, il y a 15 points d'écart. C'est énorme. C'est énorme pour des clubs professionnels.
Monaco, donc, aussi qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, la quatrième place qui est le strapantin pour la Ligue des Champions, mais qui peut être qualificatif direct encore, je crois, parce qu'il y a encore une possibilité avec l'indice UEFA que cette quatrième place soit qualificatif direct. Je crois qu'il faut que le PSG gagne la Ligue des Champions et dans ce cas-là, elle sera qualificative direct. Elle va se jouer vraiment au forceps. Donc entre
dernière journée.
Nice, qui pour l'instant occupe cette place avec un goal average un tout petit peu favorable par rapport à Lille, qui a le même nombre de points, par rapport à Strasbourg, qui a perdu une mauvaise défaite de Strasbourg contre Angers.
Alors que Strasbourg montrait de bonnes dispositions, une bonne petite équipe.
Strasbourg était plutôt sur une bonne dynamique aussi. Donc voilà, ils ont tous flanché là au mauvais moment. La dernière journée va être très très intéressante hein, puisque on a Strasbourg qui va recevoir le Havre. Donc le Havre se bat pour ne pas descendre. On a Lyon qui va recevoir Angers. On a Nice qui va recevoir Brest qui est en train de remonter aussi, pourquoi pas, pour espérer une place en Europa League. Et puis Lille qui reçoit Reims. Donc Reims va pas prendre beaucoup de risques, je pense. Ils sont en milieu de classement.
Ils jouent la Coupe de France.
Ils devraient pas être trop menaces. Voilà, ils vont cibler la Coupe de France avec leur effectif, je pense. Donc pour éviter les blessures, pour essayer d'avoir l'équipe type en Coupe de France. Donc les quatre clubs qui ont perdu à la course à l'Europe vont jouer très très cher la semaine prochaine.
Et puis pour les descentes, pour la
exactement,
descente,
on va parler de la descente un petit peu.
Saint-Étienne, Nantes.
On avait dit que ça sentait pas bon la semaine dernière pour Saint-Étienne. On s'est peut-être avancé un peu finalement. On s'est peut-être avancé un peu parce que Saint-Étienne a gagné ce week-end 2-0 et se retrouve à seulement un point du Havre, qui est le barragiste, avec à la 16e place. et 3 points de Nantes. Donc,
malheur aux perdants pour samedi prochain.
Exactement, c'est exactement ça. Ceux qui vont perdre le week-end prochain vont se retrouver... voilà. Mais un ballotage favorable peut-être pour Saint-Étienne qui reçoit Toulouse. Alors que le Havre se déplace à Strasbourg, je viens de le dire. Donc peut-être que les Stéphanois peuvent aller chercher la place de barragiste. Ils ne peuvent pas aller chercher mieux de toute façon, puisque Nantes a 33 points, même si Nantes perd. Saint-Etienne à moins 37 en goal average.
Saint-Etienne peut se sauver.
Moins 16, donc, mais le barrage serait, ironie du sort, on s'avance un peu, on fait un peu de foot fiction, contre Metz, ce serait le même barrage que l'année dernière.
Ça serait le même barrage. Voilà. Et Saint-Etienne a les armes. Mais Metz aussi, hein. J'ai suivi un peu Metz cette année, ils sont capables de marquer des buts à tous les matchs. Hein.
C'est toujours le fameux débat entre l'équipe qui va pas bien en L1 qui descend et l'équipe qui va bien en L2 qui monte. Donc on va voir quelle est la meilleure dynamique ou l'expérience dans ces barrages, si tant est que Saint-Etienne y accède. On va passer, messieurs, à quelques brèves, bien en football qu'en tennis, on va continuer encore en football. Il y avait un classico cette nuit, vous l'avez dit tout à l'heure, il fallait se lever très très tôt ou se coucher très très tard, c'est selon.
Sacré match aussi.
Ne pas dormir, voilà, faire une nuit blanche. Voilà. Et encore un très très gros match entre le Barça et alors beaucoup plus sympa que celui de la finale de la Coupe du Roi. Mais c'est encore le Barça qui s'est imposé.
Très ouvert.
4 buts à 3. C'est peut-être d'ailleurs aussi un axe de réflexion pour le Barça qui prend quand même beaucoup de buts. Mais en tout cas, ils ont gagné 4-3 malgré un triplé d'un certain Kylian Mbappé. Et il ne manque plus qu'un point au Barça pour être champion.
Oh, ils seront champions là.
Voilà.
Là, ils seront champions.
Il reste combien de journées ?
Il reste deux journées, je crois, oui. Donc le Barça va être. Oui, normalement, le Barça devrait être champion. Maintenant, à un point, ils vont tout faire pour aller chercher dès la prochaine journée et valider ce titre. Ce qui veut dire aussi une saison blanche pour le Real Madrid.
Je pense que c'était prévisible. C'était prévisible. Tu fais venir Mbappé, tu as beaucoup de joueurs, donc il faut construire maintenant autour de Mbappé. Il faut vraiment construire autour de Mbappé. Ils ont une défense aussi, ils ont eu pas mal de blessés, notamment dans l'axe central. Ils ont conservé Modric et il faut qu'ils recrutent.
Ils
n'ont pas remplacé Kroos. Sur le côté droit, ils font avec, mais là, ils vont recruter Trent. De Liverpool, ils sont aussi sur Saliba d'Arsenal, donc ils sont conscients que défensivement ça ne va pas. Et au milieu, il faut vraiment remplacer Kroos et Modric. Hein. Il faut trouver au milieu de terrain c'est pas ça.
Puisque Tchouaméni et Camavinga n'ont pas pris le lead pour l'instant sur ce milieu de terrain.
Tchouaméni, il va en Angleterre en plus.
Hein. Alors aujourd'hui, les rumeurs vont bon train, ça y est, c'est parti. Voilà. Et on parle aussi donc de Xabi Alonso
comme entraîneur
du Real, futur entraîneur du Real. Un petit mot de tennis avant de passer à vos coups de cœur, messieurs. C'est en ce moment le Masters 1000 de Rome. Et Corentin Moutet, cette nuit, a sorti peut-être la perf de sa carrière en battant Holger Rune, numéro 10 mondial, en 3-7. Très serré, presque 4 heures de match, 3h54 de match. Une grosse perf pour Moutet qui, ces dernières semaines, était plutôt agité, on va dire, sur le court. Mais là, qui a vraiment su rester très, très calme tout au long du match. Et donc, meilleure performance en carrière à 3 semaines de Roland-Garros, plutôt de bon augure. Clément Muller, un petit mot ?
J'ai pas suivi du tout, mais effectivement, à l'approche d'une échéance comme Roland-Garros, ça peut être que, en tout cas psychologiquement, ça...
Comme tous les ans, on a forcément envie que nos Français brillent à Roland-Garros dans quelques semaines. Il y en a un autre qui a bien défendu ses chances cette nuit aussi, c'est Arthur Fils, qui a battu quand même Stefanos Tsitsipas. Hein, ancien finaliste de Roland-Garros, lui aussi en 3-7 également. Donc on sent que il devient très régulier sur ses dernières performances sur terre battue et ça peut être de bon augure ça aussi pour Roland-Garros. L'info de la semaine, surtout à Rome, c'était le retour de Jannik Sinner, le numéro 1 mondial, qui était donc suspendu 3 mois, et donc qui revient, qui bat Navoné au premier tour, l'Argentin. On va voir s'il va aller au bout. Hein, ce Masters 1000 se terminera le week-end prochain. Mais on a vu qu'il était déjà très en forme et très affûté, en tous les cas. Il va peut-être manquer un peu de compétition, mais il a l'air très, très affûté.
Et le préparateur physique personnel, c'est normal. Hein, rester 3 mois sans rien faire, avec un, voire deux préparateurs physiques, C'est normal qu'il soit à ce niveau-là.
Et il est peut-être allé skier, puisque je vous rappelle que c'est un ancien futur champion de ski. Donc, il aurait pu être champion de ski. Donc, il a peut-être profité de cette coupure pour se faire plaisir et aller skier, même si, à mon avis, son agent lui a fortement déconseillé de se casser une jambe à ce moment-là de la saison. Mais si on va passer, on va terminer cette émission et passer à vos coups de cœur. Clément Muller, on va commencer par votre coup de cœur.
Ouais, ça va pas être difficile. On va être sur Johan Zarco, après ce qu'il nous a fait vivre ce week-end, effectivement.
Une superbe Marseillaise aussi. On l'a senti extrêmement émue.
Une Marseillaise au Mans, et puis surtout 71 ans après, en catégorie reine. Donc oui, il mérite largement ce coup de cœur.
Pierre Forest, votre coup de cœur de cette semaine ?
Bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la disparition tragique du joueur fidjien Josiah Raisoke, hein, disparu brutalement, qu'on ne s'y attendait pas, joueur du Castres Olympique, qui a jeté un émoi tout le week-end sur tous les terrains de France et même de Fidji, puisqu'il est originaire de Fidji. C'est quand même... 2024, sa consécration, avec la médaille d'argent perdue contre l'équipe de France aux Jeux Olympiques de rugby à 7. Donc une disparition tragique qui va laisser de grands regrets au rugby français, puisque c'était un garçon très attachant d'après les commentaires qu'on
a vu. On a vu les images.
Voilà, coup de cœur à la communauté fidjienne qui est ici en Nouméa, qui est quand même une forte communauté. Donc, voilà.
Et à l'ensemble du rugby français qu'on a senti touché tout le week-end, effectivement. François-Louis-Marie, votre coup de cœur. Alors, la transition est un peu difficile.
La transition est difficile. Après, Pierre, Olivier. Mais je m'arrêterai à ce fameux match Inter-Barcelone, où je ne suis supporter d'aucune des deux équipes. Mais j'invite vivement les sportifs de revoir ce match-là, parce qu'on est passé par pas mal d'émotions.
Et vous qui êtes éducateur, c'est un DVD à garder et à montrer les écoles de foot.
J'en ai déjà parlé à nos jeunes, qu'il faut qu'ils puissent regarder ce match-là. Hein.
Le match aller comme le match retour,
hein, parce qu'il y a eu quand même 6 buts au match aller, et le match retour était plein d'émotions.
Bon, eh bien merci messieurs, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.